comptable depuis 1872, ou l'invention de la radio.
Voici Marceau le midi.
Bon, enfin quelque chose de vrai.
Oui, mais est-ce positif? Des fois oui, des fois non, comme là dans le temps.
D'être indomptable?
Oui.
J'ai toujours eu des blondes qui ont voulu me dompter, ça n'a jamais marché.
Ben, il faut jamais sortir avec quelqu'un en se disant « va le changer
ouais. ».
Il faut accepter toute la personne pour le meilleur et pour le pire.
Ouais.
Puis quand le pire devient attachant, elle, là, t'as trouvé ta personne.
C'est toujours mieux un lion dans la nature qu'un lion en cage.
Moi, je te dirais que des fois, je te mettrais en cage, puis je trouverais ça mieux.
Ouais, je sais. Les femmes aimeraient bien me mettre en cage. Dans leur cage.
C'est pas ça, OK? Là, on
pas
parle
je me
pas
sauve.
De... Non, ça va pas.
Minou,
mon matou. On s'en va avec Nicolas Gagnon qui nous attend au bout du fil.
Monsieur Gagnon, bonjour.
Bon lundi à tout le monde.
Merci d'être là. Vous avez connu une belle fin de semaine?
Bon, c'était correct. Disons que ça s'est refroidi hier, puis je pense que j'ai attrapé un rhume pour une première fois depuis je sais pas trop combien d'années. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même un bon week-end. Ça démontre que l'automne s'en vient vraiment rapidement. Là.
Est-ce qu'il est tardu, ton rhume? Parce que il paraît que cette année, c'est pas facile. Même la COVID est de retour et tout, là.
Ouais, ben le pire, c'est que j'ai jamais attrapé. Écoute, je pense qu'au courant des cinq dernières années, là, genre jusqu'à pré-COVID, j'avais pas été malade ou presque. J'ai juste été comme super chanceux. Mais hier, écoute, je suis allé jouer au golf avec la famille. On arrive sur le terrain. On pensait qu'elle allait être bon, qu'elle allait faire un peu frais, tu sais. Mais là, c'était, écoute, je pense que c'était 10 degrés dehors, il pleuvait, ça ventait. On était pas du... Nous, on était habillés en... comme si on allait jouer au golf en plein été. Fait qu'on s'est fait rattraper Oups. Par la réalité sur place. Puis ben, on a eu quand même une très belle game de golf, mais je pense qu'on est tous revenus avec un peu un rhume chacun de notre bord, là.
Ah, M. Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, vous regardez pas mal ce qui se passe du côté du fédéral. Et curieusement, avec les déficits par-dessus, les déficits que Justin Trudeau nous a habitués par les années passées, là, ça semble bien aller là, pour ce qui est de la mise à jour fédérale, là, de retour à l'équilibre budgétaire.
Ben oui, ça va super bien. Ben, en fait, c'est quasiment sarcastique du même. Mais oui, il y a un retour à l'équilibre budgétaire qui serait, je dirais, à l'horizon selon les dernières données du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Sauf que cet horizon-là serait pour 2040. Donc, c'est pas tout à fait, comment dire, la porte à côté. C'est pas la semaine prochaine qu'on va voir un retour à l'équilibre budgétaire. Mais si on fait le calcul rapidement, ça veut dire que le Canada aurait été dans une situation de déséquilibre fiscal ou du moins dans avec un budget dans le rouge pendant pas loin de 25 ans, voire une génération complète, parce qu'on aurait été dans le rouge en 2015, à partir du moment qu'on a eu les premiers déficits en 2015-2016 de la part de Justin Trudeau jusqu'à 2040. Donc, on verra qui sera au pouvoir rendu là. Chose certaine, par contre, ça indique à quel point il y a vraiment eu aucune mesure qui a été mise de l'avant par le gouvernement Trudeau, ne serait-ce que pour prioriser ce fameux retour à l'équilibre budgétaire qui était quand même dans leur carte, dans leur premier gouvernement en 2015 et 2019. C'est carrément disparu. Et veut pas, ben je veux dire, ça coûte extrêmement cher. Juste si on prend les intérêts sur la dette du Canada qui vont être payés par les contribuables entre maintenant et 2040, ça représente pas loin de 847 milliards de dollars. Donc c'est un chiffre comme ça que je vous garoche, mais la réalité, c'est qu'entre 2024 et 2040, on a nécessairement des déficits qui continuent à s'accumuler, puis la dette canadienne continue d'augmenter, et cette dette-là, on doit rembourser un montant chaque année. Et dans ce cas-ci, ben, si on prend tous les montants accumulés d'ici le retour à l'équilibre budgétaire, c'est 847 milliards de dollars que tous les Canadiens auront remboursé en intérêt seulement sur une dette qui aura quand même augmenté et qui aura pas, dont l'argent n'aura pas été investi ailleurs dans notre économie.
Nick, ce qui est hallucinant, c'est que, tu sais, moi, j'ai des chums qui sont autour de moi, là, qui étaient dans le temps très, très, très Justin Trudeau. Ils étaient tannés de Stephen Harper, puis ils voulaient du nouveau. Donc, ils ont dit, bon, Justin Trudeau, c'est un jeune père de famille, puis on va lui donner une chance. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, Justin Trudeau, avant de prendre le pouvoir, avait garanti qu'il allait avoir des déficits les premières années. Là. Et là, il a rempli ses promesses, puis les gens y en veulent. Voyons donc, vous avez voté pour des déficits, il vous en a donné ben en masse.
Effectivement, on va se dire franchement, les gens savaient un peu pourquoi ils votaient la première fois.
Ben oui.
Moi, c'est pas comme si Justin Trudeau s'était caché avec ses fameux déficits. Il rappelait que l'équilibre budgétaire allait revenir de lui-même parce que dans sa bonne vieille théorie, grosso modo, on peut faire des déficits, mais c'est pas grave parce que la croissance de l'économie va nous permettre de rembourser ces déficits-là à long terme puis de ramener l'équilibre budgétaire juste à cause de la croissance économique. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est une pensée magique. Au final, c'est pas arrivé. Le gouvernement a constamment augmenté la lourdeur bureaucratique au fédéral. On a augmenté le nombre de programmes aussi, tout récemment. C'était des programmes sur les soins dentaires ou des programmes de médicaments. Donc, il y a un paquet de programmes, des fois, qui sont même en dédoublement de ce qu'on trouve déjà dans les provinces. Donc, les contribuables, d'une part ou d'autre, payent plus pour des programmes dont ils n'ont pas nécessairement de besoin. Et on a augmenté aussi la lourdeur de la bureaucratie. Je veux dire, c'est 108 000 fonctionnaires que Trudeau a ajoutés à l'ensemble de la machine fédérale depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il n'y a pas un seul programme fédéral qu'on peut dire que la qualité ou la qualité de la service à la clientèle s'est améliorée au cours des dernières années ou même le rendement ou peu importe. Donc, tout ça, c'est énormément de dépenses. On a augmenté la taille de l'État. On augmente les taxes et les impôts à répétition sous le couvert de qu'on a besoin de ces économies-là à long terme pour rembourser le budget. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont justement augmenté l'impôt sur le gain en capital. Initialement, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas constamment aller creuser les déficits. Il fallait qu'ils cherchent des revenus supplémentaires. Donc, d'une part, on gaspille de l'argent sans même être en mesure de se dire s'il va y avoir un retour sur investissement pour les contribuables. Puis après ça, on va leur chercher plus d'argent dans leur poche pour être en mesure de rembourser ces dépenses qui ne faisaient aucun sens initialement. Donc, oui, je pense que les Canadiens vont finir par s'en rendre compte. Il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits cet été qui rappellent que les contribuables trouvent que, justement, ils payent trop d'impôts et qu'en plus de ça, on a un gouvernement qui est de moins en moins efficace. Et donc, ils espèrent qu'il y ait un coup de barre qui soit donné à quelque part. Donc, on verra bien qui sera élu, qui sera le prochain premier ministre du Canada en 2025. Mais c'est sûr que le narratif va être très différent aux prochaines élections. On ne pourra pas avoir un autre premier ministre qui va se faire élire en promettant des déficits pour une génération, encore une fois, là.
Est-ce que la Fédération canadienne des contribuables s'est penchée sur Pierre Fitzgibbon? Est-ce qu'en bout de ligne, là, quand on regarde le passage de Pierre Fitzgibbon en politique, on met tous les chiffres là, qui sont associés, les plus comme les moins. Est-ce qu'il nous a fait faire de l'argent, Pierre Fitzgibbon, ou il nous a coûté de l'argent?
Bien, c'est une très bonne question. En fait, bien, parce que veux, veux pas, on a quand même suivi pas mal toutes les activités de Fitzgibbon depuis 2018, parce que à l'instar des autres ministres de l'économie avant lui, il a fait à peu près tout ce qui a déjà été fait auparavant. C'est-à-dire signer des chèques sous l'ordre du premier ministre qui s'assurait à ce que ces chèques-là aient directement dans des entreprises ou des initiatives économiques au Québec. Faut se rappeler, que ce soit Fitzgibbon, que ce soit Anglade, que ce soit Nicolas Marceau, que ce soit Clément Gignac ou Jacques Daou, à la fin de la journée, les ministres de l'économie au Québec, ils sont à la solde du premier ministre. Ils ne peuvent pas prendre de décision par eux-mêmes. Fitzgibbon, oui, il y a un héritage politique. Oui, il y a plusieurs projets de loi dont on attend là, des résultats, ou on attend même que ça aille de l'avant. Donc, son fameux projet de loi 69, dont il a démissionné à peine une semaine avant qu'on commence quelques jours avant l'ouverture des travaux parlementaires là-dessus. Mais quand on regarde effectivement les chiffres, c'est pas très rassurant de se dire on se demande si effectivement il va y avoir un retour sur cet investissement-là éventuellement. Quand on regarde Flying Wells, parce que j'ai fait une petite liste assez rapidement des entreprises que ça n'a pas été très lucratif d'investir là-dedans. Flying Wells, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est pas loin de 80 millions de dollars que le gouvernement du Québec, via Investissement Québec, entre autres, ont mis dans une compagnie qui va faire des dirigeables. Sauf que vous pouvez vous rappeler les fameux Zeppelins là, qu'on voyait là, dans les vieux films ou dans les scènes de la Première Guerre mondiale, carrément. Bien, ça serait un retour au goût du jour. Mais l'entreprise The Flying Wells, qui est franco-canadienne, elle est au stade de recherche. C'est essentiellement une start-up. Donc, on ne sait même pas si un jour ils vont produire quoi que ce soit. On peut rappeler les 200 millions dans Lyon Électrique. Puis on connaît l'état financier de Lyon Électrique. C'est pas très reluisant présentement. Plus de 20 millions dans Taiga. On une entreprise au bord de la faillite. Vision Marine, 6 millions, aussi au bord de la faillite. Nordvolt, 3 milliards.
Ouais. Va pas trop vite. Le Taiga, eux autres, c'était les motoneiges électriques.
Ouais. Exact. Ouais. Vision Marine, c'était pour les moteurs, pour les bateaux, dans le fond, les moteurs électriques pour les bateaux.
Exact. Puis ça a été, dans les deux cas, ça a été un fiasco, là.
Oui, effectivement, là, dans tous les cas, je veux pas non plus être un oiseau de malheur, mais il n'y a pas aucune des entreprises que j'ai nommées jusqu'à maintenant qui donne l'impression qu'elles vont être encore là dans 5 ans. Nordvolt, je pense que ça devient c'est le clou culminant, 3 milliards de dollars. Si on ajoute ça à l'argent que le fédéral a mis, ça monte à pas loin de 7 milliards. Mais On connaît toutes les fameuses mauvaises nouvelles qu'on a entendues au cours des dernières semaines, voire derniers mois. Puis en plus, on a le fameux retard de 18 mois dont accuse Northvolt, qui a été annoncé littéralement 3 jours avant le départ de Fitzgibbon. Donc rien de très encourageant là-dessus. Après ça, je peux faire la liste de GM, Ford et toutes ces autres compagnies de la grande filière électrique qui ont reçu des centaines de millions de dollars et qui sont pas nécessairement engagé là à 100% dans cette transition électrique au même niveau que le gouvernement espérait. Donc, on regarde effectivement toutes ces entreprises-là qui ont reçu beaucoup d'argent, l'argent des contribuables, pour le rappeler, et on regarde à quel point plusieurs d'entre elles sont pas nécessairement dans une bonne posture. Et oui, ça peut nous permettre d'avoir une idée, plutôt claire là, de l'héritage de Fitzgibbon, mais je le rappelais encore une fois, Fitzgibbon, à la fin de la journée, c'est un ministre de l'économie qui prend des décisions pour le premier ministre. Toutes ces décisions-là n'auraient jamais eu lieu si elles n'avaient pas été d'abord approuvées par François Legault d'une manière ou d'une autre, de la même manière que c'est le cas pour les autres ministres de l'économie avant lui. Donc, je ne vais pas nécessairement définir Fitzgibbon ou Fitzgibbon, comme on aime l'appeler, mais à la fin de la journée, que ce soit lui ou que ce soit Mme Fréchette ou que ce soit un de ses prédécesseurs, je pense que le résultat aurait été pas mal le même quand on constate l'agenda du gouvernement Legault présentement.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
C'est toujours un plaisir. À la semaine prochaine.
Merci. Bye-bye. Nicolas Gagnon. L'excellent Nicolas Gagnon! L'argent, on ne la reverra jamais. Là.
Ben non, mais ça, c'est fait.
Taïga, c'est mort. Lyon Électrique, c'est mort. Lyon Électrique, aujourd'hui, là. Moi, je suis actionnaire de Lyon Électrique, tu savais?
Oui, un peu trop, oui.
Je m'étais acheté, quand ça a sorti, ça, cette affaire-là, je m'étais acheté, je pense que c'était 50 actions de Lyon Électrique. Je vais juste aller vérifier, là.
Pendant ce temps-là, là, moi, tout le long, là, Nicolas est un petit peu short en temps, aujourd'hui, là, mais j'aurais voulu savoir, parce qu'il dit tout le temps, les décisions sont toujours approuvées par François Legault. Il prend toujours des décisions approuvées à... Est-ce que François Legault a jugé de son incompétence dans certains dossiers et a ouvert les valves pour que Pierre Fitzgibbon ait de l'avant? Et est-ce qu'il a réellement regardé et approuvé tous les projets et ou avait la compétence pour le faire? Je pourrais avoir un segment complet de 25 minutes avec des analyses politiques là-dessus.
Ça en dirait long sur François Legault.
Là. Ben, je trouve que c'est la question là-dedans.
Si tu n'es pas capable de t'entourer de gens qui peuvent te conseiller au même niveau que Pierre Fitzgibbon, si vraiment Pierre Fitzgibbon, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'élite financière, là, si tu n'es pas capable de t'entourer de gens qui peuvent te conseiller là-dessus, puis juste faire confiance à un seul homme, ça en dit beaucoup
mais
à quel point tu es un navet.
On connaît beaucoup l'homme, François Legault, comme étant quelqu'un qui aime un certain pouvoir, un certain contrôle de ses choses pour le meilleur et pour le pire, autant dans l'entourage qu'on a vu plus personnel que professionnel. Puis là, je ne te parle pas à l'intérieur des murs de la maison, mais dans certains points de presse, on a vu certains comportements qui peuvent nous faire analyser les choses comme ça. Est-ce que ça a été aussi un genre de combat de coq décisionnel de quelqu'un qui avait plus de compétences financières et économiques que l'autre et ou deux visions d'entrepreneurs qui se sont coltaillés puis qu'à la fin, ça ne fonctionnait plus parce que les deux voulaient une liberté dans la... Il y a beaucoup d'analyses personnelles là-dedans que j'aimerais faire, mais il se passe de quoi dans ce lien-là entre ces deux hommes-là qui n'a pas nourri et servi le Québec? Et ça, il faut en apprendre.
J'avais acheté 50 actions Lyon Électrique au coût de 23,22 $, Pascal, il y a de ça quelques années. Puis mon 23,22 $, l'action est passé à 1,03 $ l'action. C'est en train de devenir un penny stock.
Là, c'est un peu tough, par contre, d'en vouloir à Pierre Fitzgibbon puis de parler de ses compétences économiques et de choix, là, Yannick,
mais je me disais, des gens aussi exceptionnels, un top gun comme Pierre Fitzgibbon qui dit « Moi, j'investis l'argent des Québécois là-dedans parce que ça va nous revenir plus tard. C'est une excellente entreprise. » Je me suis dit « Tiens, moi, y faire confiance. » Et finalement, ben, j'aurais pas dû lui faire confiance.
Ben, c'est toujours risqué. Et ça, même pour le gouvernement. C'est juste que là, il y a eu beaucoup de risques qui se sont amenuisés.
François Legault, on dit que c'est un homme d'affaires, mais c'est un homme d'affaires qui est parti de chez eux à 37 ans, parti chez ses parents à 37 ans.
Ah, moi, si j'avais pu.
C'est un gars qui a trahi ses actionnaires dans son entreprise, puis qui est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. C'est un gars qui n'a jamais vraiment réinvesti son argent, si ce n'est que dans les bons d'épargne du Québec. C'est quelqu'un qui n'est pas un risqueux. Là. Fait que lui, ça y prend un club de financiers autour de lui pour le conseiller, sinon ça n'aurait pas de sens. Il n'a pas les connaissances d'un ex-banquier comme Pierre Fitzgibbon ou comme les autres. Là. Fait que c'est sûr qu'il doit être conseillé. Là. Oui, Pascal?
Mais ce sont tes paroles. Je te les laisse.
C'est sûr qu'il doit être conseillé. Là.
Mais comme n'importe qui au sein d'un gouvernement, un premier ministre qui fait pas confiance à son monde et qui s'entoure pas, je veux dire, c'est aléatoirement, c'est pas un commentaire qui serait bien, comment dire, confronté par des gens. Là.
7 milliards pour
Northvolt.
C'est
North essentiel.
Ils n'ont pas été deux là-dessus. Là. C'est sûr qu'ils étaient un groupe. Ça en dit long sur l'équipe au grand complet. Cela dit, en fin de semaine, vous deviez passer voir Max et Audrey, aller chercher un indice, c'est bien
yes,
ça,
sir.
Au Rouge et Or. C'était le tailgate du Rouge et Or, puis la gang de Boulevard était présente sur place. Et il y a une carte cadeau à gagner de 1 000 $ qui est rendue publique. Donc, vous deviez noter
carte
l'indice.
Carte cadeau Laurier Québec, ouais. C'est pas rien, là.
Vous deviez noter l'indice du match et achetez vos billets au Rouge et Or, ulaval.ca. Vous avez tout fait ça. Donc, 418-971-1021. 418-971-1021. Vous me textez l'indice qu'on vous a donné et vous allez devenir finaliste, les amis. 418-971-1021.